France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Prague. Prague aux doigts de pluie, comme l'écrivait le poète surréaliste Vitéslav Nezval. Prague, ville mystérieuse, où résonne encore l'écho des alchimistes qui ont arpenté ses rues. Prague, théâtre de la vie de Franz Kafka, dont l'œuvre est profondément marquée par l'empreinte de cette ville si particulière. Mêlant langue tchèque et langue allemande, carrefour culturel néanmoins teinté d'antisémitisme, il faut comprendre l'ambiance tout à fait singulière qui régnait à Prague pendant la vie de Kafka, pour prétendre à la compréhension de son œuvre. Milena Jesenská, journaliste, écrivaine et intellectuelle anarchiste tchèque, avec qui Kafka eut une brève mais très intense relation, fut comme un avatar symbolique de cette ville auquel il tente désespérément de s'intégrer, tout en n'ayant jamais un véritable sentiment d'appartenance. Vers la fin de sa vie, il se tourne d'ailleurs de plus en plus vers sa culture juive, apprenant l'hébreu et rêvant d'un exil en terre promise. Si la ville de Prague au tournant du XXe siècle est l'objet d'une véritable fascination, elle permet surtout de situer Kafka quelque part en dehors de la littérature, de comprendre les ressorts et les origines de son œuvre, certes, mais aussi de sa crise identitaire et existentielle. Dans ce 8e épisode d'une journée Franz Kafka par Jean Dave, Isabelle Huel et Jacques Taroni, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, Ivo Fleischmann, Sol Friedlander, Christian Boltanski, Marcelin Plenet, Bernard Noël et Anne-Marie Albiac racontent et explorent le Prague de Kafka. Kafka et Prague, entre appartenance et dissonance, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
1913, 21 juin. Le monde prodigieux que j'ai dans la tête. Mais comment me libérer et le libérer sans me déchirer? Et plutôt mille fois être déchiré que le retenir en moi ou l'enterrer. Je suis ici pour cela. Je m'en rends parfaitement compte. 2 juillet. Je n'aurais jamais pu épouser une jeune fille avec laquelle j'aurais vécu toute une année dans la même ville.
Il se peut que tout soit fini et que ma lettre d'hier soit la dernière. Ce serait incontestablement le mieux. Ce que je souffrirai, ce qu'elle souffrira, n'est rien en comparaison de la souffrance commune qui en résulterait. Je me ressaisirai lentement, elle se mariera, c'est la seule issue possible entre créatures vivantes. Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin pour deux dans le roc. C'est assez que nous ayons pleuré et que nous nous soyons torturés pendant un an à cause de cela. Elle le comprendra d'après mes dernières lettres. Sinon, je l'épouserai sûrement, car je suis trop faible pour résister à l'opinion qu'elle a de notre bonheur commun et hors d'état de ne pas accomplir, pour autant que cela dépende de moi, quelque chose qu'elle regarde comme possible. Hier soir, au Belvédère, sous les étoiles.
Vous croyez que Milena était le médium tchèque de Kafka, au même titre que Prague ?
Pas au même titre que Prague, puisque quand même l'importance de Prague en tant que phénomène est bien plus importante que ce phénomène qui est entré dans l'orbite de Kafka par l'intermédiaire de Milena Jesenská. Mais Milena certainement a eu une influence certaine pour Kafka Et pour lui, c'était un lien supplémentaire avec les Tchèques.
Rue des Amiraux, Paris, Ivo Fleischmann.
Milena Jesenská était une personnalité, somme toute, très importante. C'était une femme d'une intelligence très, je ne dirais pas lucide, mais passionnée plutôt. C'était quelqu'un, c'était une personnalité. D'ailleurs, il serait inexact de voir en Milena Jesenská seulement l'ami de Kafka. L'amitié avec Kafka recouvre quelques années, c'est un chapitre de la vie de Milena Jesenská. Mais Milena Jesenská est entrée, même je dirais, dans l'histoire des Tchèques grâce à son activité intellectuelle, journalistique et de résistante. C'était une très forte personnalité.
Comment pourriez-vous concilier à la fois la ville de Prague et le choix de la langue allemande? Est-ce que c'était compatible?
Et pour lui, c'était tout à fait naturel, puisque sa mère était de langue allemande. La maman de Kafka était de langue allemande. C'était une femme de Poděbrady, d'une localité, d'une petite station balnéaire tchèque. Et la famille de la mère était de langue allemande, c'est-à-dire la langue maternelle de Kafka était allemand. C'est-à-dire s'exprimer pour lui en allemand, c'était quelque chose de naturel. Et de plus, vous savez, Prague, depuis des siècles, depuis un millénaire, était une ville où l'usage et la présence allemande étaient tout à fait naturels. C'était seulement les conditions historiques qui ont fait naître à des certaines époques des animosités extraordinairement vives entre l'élément tchèque et l'élément allemand. Mais les Allemands sont venus dans les pays tchèques invités par les rois de Bohême pour aider à développer à l'époque moyenâgeuse le commerce, les débuts de l'industrie. Et ils y sont restés. Ils s'y sont implantés. C'est-à-dire, à travers des siècles, le royaume de Bohême était habité par une majorité tchèque et par une minorité allemande, et par une minorité juive également. Au moins, je cite, au moins ces trois nationalités. Si nationalité il y a. Alors ça, c'était la présence allemande était tout à fait naturelle. Et de plus, Kafka avait un certain intérêt qui était, je dirais, de sa sensibilité, qui le guidait un petit peu vers les Tchèques. Dans une lettre à Milena, qui était son plus grand ami tchèque, Milena Jesenská, il lui écrit textuellement, dans une de ses lettres, l'utilisation de l'allemand était... Moi, je ne cite pas tout à fait de manière précise, mais le sens de la phrase est « L'emploi de l'allemand pour moi est naturel, puisque c'est la langue de ma mère, mais par mon cœur, je me sens attaché davantage au tchèque. »
Qu'est-ce que votre belle-mère vous racontait au sujet de Kafka ?
Ma belle-mère, Stasha Ilovska, qui était une intellectuelle et qui était une femme de lettres, à mon sens assez importante, surtout comme traductrice. C'était par exemple la première traductrice de Joyce et d'autres écrivains très importants. C'était la traductrice de Flaubert, en tchèque aussi. Et elle ne connaissait pas très bien Franz Kafka. Elle le connaissait grâce justement à Milena Jesenská. Milena Jesenská et ma belle-mère, c'était deux amis très proches, c'était deux amis très intimes. Et À un certain temps, ma belle-mère servait de lien entre Franz et entre Milena, puisque ce duo amoureux entre Milena et Franz Kafka se heurtait à des difficultés multiples, dont une des essentielles était tout simplement le fait que Milena Jesenská à l'époque était mariée. Et puis il y avait le père de Milena Jesenská, le docteur Jesenský, qui était un homme très énergique et très de caractère assez dictatorial, et qui, après avoir déjà subi ce qu'il sentait comme affront, que sa fille ait épousé un juif, avoir un second juif, ça lui était extraordinairement désagréable. Le père de Milena Jesenská, malheureusement, était antisémite. Et puis il y a eu d'autres difficultés découlant de la sensibilité et de la spiritualité de Kafka, mais ceci, tout ça, est partiellement connu grâce à la correspondance qui nous a été restituée. Mais seulement, évidemment, ce n'est que la moitié de la correspondance entre Milena et Franz Kafka. Milena a toujours demandé à Franz et à son ami Stacha de servir d'intermédiaire, et ma belle-mère, comme amie très fidèle de Milena, a accompli ce rôle. Et comme ça, elle a rencontré à plusieurs reprises Franz Kafka. Elle m'en a parlé quand elle a vu mon intérêt pour Kafka. Et elle m'a toujours décrit un homme très vivant, plein d'énergie, intelligent, s'exprimant en un tchèque pragois, avec toutes les déviations que le pragois comporte vis-à-vis du tchèque pur et littéraire. Enfin, elle ne m'a jamais décrit un personnage écrasé par sa situation d'homme. L'homme, le portrait que j'ai gardé à partir de ses conversations avec Stacha Ilovska, était celui d'un homme très désireux d'avoir des contacts avec autrui, et surtout un homme plein de désir à ce que les autres comprennent ce qu'il fait. Et puisque selon lui, ce qu'il faisait, il ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il faisait. Alors c'est ça ce que, en somme, me racontait Stacha Ilovska, ses promenades dans les parcs pragois avec Kafka, entre les différentes lettres échangées entre Franz et Milena.
Thank you. C'était tout à fait à la manière de Kafka, mais je n'ose pas, parce que j'ai réalisé mon séjour, j'ai peur des problèmes.
C'était quoi cette histoire?
Mais je suis revenue, il y avait mes frères et un ami qui m'attendaient, et lui, il m'avait tout de suite pris, c'était le père d'une amie, chapeau, les épaules courbées avec les grands manteaux, évidemment, c'est les années 50 qui me sont revenus. Il m'a dit, est-ce que tu as les papiers en ordre? Est-ce que tu ne crains rien? Viens, on va vite à l'autre station, personne ne nous écoute. Tout à fait, on ne peut pas imaginer mieux Kafka que ça. Enfin, je dirais, comme ambiance. Il m'a traîné après des années, tout d'un coup, il me chauffe à la carrière. Est-ce que tu as tout réglé, tous les papiers? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu crains pas? Écoute, moi j'ai entendu à la radio des trucs, des choses. On se dépêche, on regardait évidemment. C'est un exemple qui pourrait très bien aller dans les trucs de Kafka, mais moi je peux pas. Je ne sais pas, c'est trop dangereux. L'année dernière? C'est quand même.
Mais il y a un climat, pour quoi?
Absolument. Mais avec mon nom, je n'ose pas en parler.
Celui-là.
De peur d'avoir des persécutions.
Il y a un climat de...
Tout bêtement dans la rue, une rue.
Mais c'est ça, c'était de l'arrivée à Prague, c'est l'angoisse. Si, je pourrais en parler de cette façon-là, mais enfin, comme il y a mon nom, comme il y a ma famille, eh ben j'ai peur d'en parler, parce que je pense que Kafka même est interdit en ce moment. Ah, c'est très Kafka, ça, comme...
Il y a du monde dans la rue, dans la ville?
Non, Kafka n'est pas interdit, voyons.
Mais il a été pendant quelques temps.
Bah, pas du tout.
Après 68, ici?
Oui, mais là, maintenant, non.
Je sais qu'il y a eu un
moment. On m'a envoyé...
Je ne sais pas comment arranger la chose pour ne pas dire cela.
C'est parti d'une oubliée.
Mais comme on m'a montré les métros, là, la station de métro, il me dit, l'ami qui m'accompagnait, il m'a dit, tu vois... on n'a pas eu le temps de faire l'épreuve si la construction du métro était bonne, parce qu'il y avait juste le moment où les chars russes sont arrivés à Lille. C'était une excellente épreuve que le métro a été bien bâti, il a tenu le coup avec le temps qui passait par-dessus.
Aby jsme prominul a umluvil mě u vše, jestliže zítra přijdu k Baumovi až kolem 9. Jsou u nás nějací příbuzní. Ostatně zaskočím k tobě na chvilku v pondělí v 5, kdybych tě snad rušil v práci za 30. Tvůj Franc.
Là, vous avez l'édition originale du procès sur votre bureau. Vous l'avez trouvé à Jérusalem. Le cauchemar de Kafka vous a aidé à comprendre le cauchemar du nazisme ?
Le cauchemar de Kafka m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et c'est un livre que je transporte d'ailleurs avec moi. J'aime Kafka très particulièrement. Je suis de la même ville. Je suis né à Prague. Et je comprends le milieu parce que c'était un peu le milieu de ma famille. Une famille assimilée, mais néanmoins avec quelques petites attaches. Encore très peu d'ailleurs. Avec le judaïsme... Kafka est un nom dont je me souviens depuis toujours, si je peux dire. Et c'est l'écrivain qui m'est peut-être le plus cher, le plus proche parmi les écrivains modernes.
Saul Friedlander.
Mais juste pour répondre à cela, non, je ne pense pas que le cauchemar de Kafka permette de comprendre un cauchemar industriel. À la fois industriel, technologique et totalement archaïque, comme le cauchemar du nazisme, c'est autre chose. Le cauchemar de Kafka est souvent un cauchemar privé. Je vous raconte une petite anecdote que d'autres vous raconteront peut-être pendant votre séjour ici, et qui est un autre Kafka. Parce qu'il faut bien vous le dire, ici, il y a des gens qui l'ont bien connu, personnellement. Ça devient de plus en plus rare, évidemment, à cause des années qui passent. Mais il se fait que nous-mêmes, ma femme et moi, étions très amis de quelqu'un qui malheureusement est mort il y a quelques mois et qui a bien connu Kafka. Le docteur Spitzer, qui vivait ici, pas loin de chez nous. Et il m'a raconté une histoire tout à fait charmante qui va au-delà de la petite anecdote et qui dit quelque chose sur deux aspects du judaïsme, si vous voulez. Et que vous saisirez très bien. En 1921, s'est tenu à Prague un congrès international ou une rencontre internationale du mouvement Maccabi, qui est un mouvement sportif juif. Et c'est le genre de rencontre sportive juive qui était très en vogue pendant les années 20, qui était liée au sionisme, bien sûr, etc. Et que l'on continue maintenant comme ça, comme tradition, mais enfin, ça n'a plus du tout la même signification. Alors, on a envoyé d'Eretz Israël, donc de Palestine, en hébreu, Eretz Israël, le pays d'Israël, une délégation importante avec à sa tête, ou comme mentor, si vous voulez, un personnage tout à fait remarquable qui a fondé, ou qui a été l'un des pères fondateurs du mouvement des kibbutzim, de Degania notamment, A.D. Gordon, un monsieur qu'on représente toujours, une grande barbe blanche, très tolstoïen, d'ailleurs pacifiste, tolstoïen, retour à la terre, le kibbutz. Et Gordon arrive à Prague et Spitzer, notre ami, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, qui était très actif dans ces milieux, on demande à Spitzer de montrer Prague à Gordon. Alors il prend Gordon et il se balade dans les rues de Prague et ils arrivent... vers ces fameux escaliers qui montent vers la vieille ville. Et qui descend les escaliers ? Franz Kafka, que personne évidemment ne connaissait à l'époque, enfin, si, quelques lecteurs de quelques petites histoires, de quelques brefs récits, mais c'est tout. Spitzer le connaissait comme effectivement un écrivain, quelques brefs récits, et qui venait très souvent, quelqu'un qui venait très souvent aux réunions sionistes et que l'on voyait dans son coin parce qu'il était très timide. Mais il le connaissait comme ça. Et alors Spitzer présente Kafka à Gordon, un vieux monsieur qui arrivait d'Eretz Israël, et ils se mettent à bavarder. Et à un moment donné, Kafka se tourne vers Gordon comme ça, et fait un grand geste de la main en lui montrant la vieille ville de Prague avec les églises, les tours, l'architecture baroque, et lui dit « Est-ce que ce n'est pas magnifique ?» Il dit « Cette architecture baroque et toute cette vieille ville de Prague. » Alors Gordon le regarde en silence et puis au bout d'un moment il lui dit « Oui, mais en Eretz Israël, l'air est bien plus pur. » Alors vous avez là, n'est-ce pas, les deux facettes du judaïsme, enfin Kafka avec son admiration quand même pour ce monde qui l'environnait, enfin cathédrale de Prague et la vieille ville, et Gordon, le sioniste de la première heure, disant « Oui, mais tout ça c'est de la frime, n'est-ce pas, chez nous au moins l'air est plus pur. » Ça pouvait être dit concrètement ou métaphoriquement, mais Ce sont les deux faces, à mon avis, du judaïsme de l'époque qui se rencontrent là, Kafka, Gordon, dans les rues de Prague.
Na ulici, tak si teď budeme psát pořád, neboť nárazy kolem jdoucích oživují písmo. Před fotografií Paulika včera jsem ji několikrát viděl živou. Chvilku stála a chvilku kráčela celá bílá Libenskou ulicí s nějakým mladým mužem, který měl kalhoty plné záhybu. Jen abych se něčeho zachytil. Zuby má v ústech neurovnané, důlek má jen v pravé tváři, kůže na obličeji je přiměřeně zvětrná, pokrytá popelem a vůbec ne pudrem. Zřejmě kůže přes den odpočívá. Přijdu ve čtvrtek. Udělej mi radost a hodně prací. Franz.
Je pense même que les Pragois n'aiment que Prague. Tous les Pragois que j'ai rencontrés dans ma vie, ils chantent des louanges à n'en pas finir de Prague. Ils s'habituent jamais à une autre ville. Oh, c'est la beauté de la ville. Je pense qu'ils le considèrent, et je pense à juste raison, c'est très subjectif, comme la plus belle ville, enfin, c'est un petit peu osé de le dire, du monde, mais je pense que parce que les Pragois sont très très attachés à leur ville. C'est leur ville. Moi, je ne suis pas de Prague, mais comme enfant, j'en rêvais beaucoup parce que j'écoutais toujours la radio dimanche. Il y avait des émissions pour enfants. Pour enfants, donc, c'était ici Prague, ici Radio Prague, Prague. Il me semblait que Prague avait vraiment une voix d'argent. Il me semblait que Prague avait une voix argentée. Pourtant, j'ai entendu toujours dire que Prague, c'est une ville d'or. Une ville dorée. Alors, lorsque je m'y suis retrouvée...
Mais c'est d'ailleurs les Allemands qui l'ont appelée la ville dorée.
Oui, c'est ça. Zlata Praha.
Oui.
Zlata Praha. La ville d'or. Die Goldene Stadt.
Oui.
Et... Quand on se retrouve à Prague, lorsque moi je m'y suis retrouvée, bien sûr que... Je savais beaucoup de choses à propos de Prague. Enfin, c'est la capitale du pays. Alors, elle symbolise pour nous, bien sûr, beaucoup de choses. Enfin.
Mais en fait, quand tu es retournée à Prague, qu'est-ce que tu es allée voir en premier? Qu'est-ce qui t'a attirée?
Je ne sais pas. Suis arrivée. J'ai rêvé de Prague. Et dans mes rêves, elle m'est toujours apparue comme une ville tout à fait extraordinaire, comme une ville d'une beauté quasi impossible ou pas très réelle. Et je me suis retrouvée, lorsque je m'y suis retrouvée, un jour, je trouvais que la vérité dépassait de loin tout ce qu'on aurait pu rêver. Subitement, je me suis retrouvée sur le pont Charles avec ces statues baroques dans des attitudes mélancoliques, songeuses. Et je ne sais pas, je pense que je ne voyais même pas les passants, que Prague est devenue pour moi en elle-même un personnage, un être vivant qui avait exactement la même attitude que ces statues qui se penchaient sur la rivière Moldava-Vltava. De façon très mélancolique. Je pense que je me penchais aussi sur la rivière de la même façon pour ne pas montrer que j'étais vraiment émue jusqu'aux larmes et que je ne voulais pas que les passants le voient. Je ne savais plus du tout de quel côté se trouvait le château, de quel côté la vieille... Enfin, je voyais Prague qui était enveloppée dans une sorte de brume qui la couvrait. Et Je ne savais plus très bien si c'était un rêve, si c'était la réalité. Et j'ai pensé à une phrase qui est d'ailleurs très connue, qui caractérise Prague, enfin, qui décrit Prague. Prague au doigt de pluie, Praha sprstidește. Et moi, je pensais Prague au doigt de brume à ce moment-là, toute voilée qu'elle était. Et je pense que je n'aurais pas pu dire autre chose à ce moment-là que Nesvaj. Il dit dans un poème que tu es belle, mon amie, voulant dire bien sûr Prague. Jak si krásna, přítelky nemá.
Et Kafka?
Je pense que chacun le porte un petit peu en soi. Il me semble que il a là dans la façon dont marchent les gens, dont ils regardent.
A omluvil mě u všech, jestliže zítra přijdu k Baumovi až kolem deváté. Jsou u nás nějací příbuzní. Ostatně zaskočím k tobě na chvilku v pondělí v 5. Kdybych tě snad rušil v práci, zapři se. Tvůj Franc.
Un champion de jeûne. Dans les dernières années, l'intérêt du public pour les jeûneurs professionnels s'est notablement affaibli. Alors que rien n'était plus fructueux autrefois que d'organiser de grandes exhibitions de jeûne sous sa propre direction, aujourd'hui, c'est devenu complètement impossible. C'était d'autres temps. À cette époque, toute la ville s'occupait du champion de jeûne. De jour de jeûne en jour de jeûne, l'intérêt du public croissait. Chacun voulait voir le jeûneur au moins une fois par jour. Sur la fin, certains abonnés passaient toute leur journée devant la petite cage. On la visitait même la nuit, au flambeau, pour plus d'effet. Et quand il faisait beau, on portait la cage au grand air. Ces jours-là, c'était surtout aux enfants qu'on faisait voir le jeûneur. Alors que cette exhibition ne représentait souvent pour les adultes qu'une plaisanterie à laquelle ils s'associaient simplement par docilité à la mode, les enfants, eux, regardaient étonnés, la bouche ouverte, et se donnaient la main pour plus de sûreté. Cet homme hâve, en tricot noir, dont les côtes faisaient saillie, et qui, méprisant tout siège, restait assis sur une litière de paille. Il avait par moments une courbette polie. Il répondait aux questions avec un sourire forcé. Il passait même le bras par la grille pour faire tâter sa maigreur. Mais, d'autres fois, il s'effondrait, se repliait complètement sur lui-même, ne s'inquiétait plus de personne, et même pas de l'heure, si importante cependant, que pouvait sonner la pendule qui constituait tout le mobilier de sa cage. Il restait là, le regard fixe, les paupières presque fermées, portant de temps à autre à sa bouche un minuscule verre d'eau pour s'humecter les lèvres. Outre les spectateurs d'occasion, il y avait aussi là, à titre permanent, des surveillants choisis par le public, en général, faits curieux, débouchés, qui se relayaient par groupe de trois et qui avaient la mission d'observer le jeûneur jour et nuit pour l'empêcher de s'alimenter en cachette. Mais c'était pure formalité. On ne s'y livrait qu'afin de tranquilliser les masses. Les initiés savaient bien que le jeûneur ne absorbait à aucun prix, même contraint, le moindre atome de nourriture aussi longtemps que durait le numéro.
Kafka écrit « Connais-toi toi-même » ne signifie pas « observe-toi ».« Observe-toi » est le mot du serpent. Cela signifie « transforme-toi en maître de tes actes ». Or, tu l'es déjà. Tu es déjà maître de tes actes. Le mot signifie donc « méconnais-toi ». Ce qui me semble extrêmement important. Méconnais-toi, détruis-toi, c'est-à-dire quelque chose de mauvais. Et c'est seulement si l'on se penche très bas que l'on entend aussi ce qu'il a de bon, qui s'exprime ainsi. Afin de te transformer en celui que tu es. N'est-ce pas ? La question n'est pas une question psychologique. C'est une question de l'être. Et ce qu'on peut dire dans cette conjoncture, eh bien, c'est que d'une certaine façon, il faut associer Kafka à son judaïsme, et il faut associer Kafka à quelque chose qu'il étudie très tôt et qui est la Kabbale, n'est-ce pas ? Associé à une lecture du monde dans laquelle il se trouve, qui est de façon scandaleuse et qui va l'être alors de façon spectaculaire dans les années qui suivent sa mort, n'est-ce pas, dans les 15 ou 20 années qui suivent sa mort, va faire scandale dans le siècle, c'est-à-dire à sa judaïcité. Il apprend l'hébreu, comme vous savez, à la fin de sa vie, associé à sa judaïcité, et à une façon de ramener dans la culture occidentale quelque chose que la culture occidentale a évacué continuellement tout au long de son histoire. Donc le grand scandale de Kafka et la grande pression de Kafka, c'est de ramener la culture judaïque dans la culture occidentale et de faire de ce double rapport un monument qui est son œuvre et qui est un monument occidental. C'est une question à la culture occidentale, c'est une question à la chronologie de la culture occidentale. On ne peut pas mettre Kafka dans une chronologie précisément parce que le judaïsme vient faire éclater de l'intérieur cette chronologie, c'est ce que fait Kafka, et la faisant éclater, eh bien forcément, elle produit du fragment. Alors ce rapport à la Kabbale est lié à sa biographie, et elle est liée à sa biographie de façon extrêmement concrète, comme son écriture d'ailleurs, et de façon extrêmement précise, puisque comme vous savez, Kafka vit de façon très très douloureuse, je dirais, un conflit familial, c'est-à-dire un conflit entre l'origine de sa mère et l'origine de son père. L'origine de sa mère qui est rabbinique, n'est-ce pas, qui comporte dans le père de la mère et dans le père du père de la mère de grands rabbins et de grands lecteurs de la Kabbale, et l'origine du père qui est beaucoup plus modeste et beaucoup plus du monde et beaucoup plus de la société contemporaine et du monde contemporain, de la réussite dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut dire que d'une certaine façon, Kafka, dès son enfance, vit sous deux lois. N'est-ce pas ? La loi du père et la loi de la mère, la loi qu'on pourrait dire en quelque sorte quasiment laïque, puisqu'il, dans la lettre à son père, n'est-ce pas ? Dans la célèbre lettre à son père, il va lui reprocher au temple de s'intéresser à toute autre chose qu'à la réalité dans laquelle il se trouve. Donc la loi du père qui est la loi laïque et la loi des géniteurs de la mère qui est la loi rabbinique.
Qui faisait osciller au hasard les jambes et le tronc du jeûneur. L'artiste alors tolérait tout, sa tête pendait sur sa poitrine, on eût dit qu'elle y avait roulé et qu'elle restait accrochée là mystérieusement. Le corps était tout creux, les jambes se pressaient, un instinct de conservation leur faisait serrer les genoux, mais elle traînait sur le sol, comme si ce n'eût pas été le vrai, et que le vrai sol, elles eussent dû le chercher d'abord, et tout le poids, infime, à vrai dire, du corps reposait sur l'une des dames qui, cherchant de l'aide et le souffle pressé, ce n'était pas ainsi qu'elle s'était représentée cette heureuse mission. Elle commençait par lever le cou, tant qu'elle pouvait, pour préserver le monde.
Comment peut-on aborder aujourd'hui le journal de Kafka ? Qui est à la fois un journal extrêmement intime, métaphysique, qui est aussi le journal d'un écrivain, avec des esquisses de récits, qui est aussi le journal de... C'est une plainte. Est-ce que c'est un journal qui nous touche aujourd'hui ?
Écoutez, moi, c'est un journal qui me bouleverse, en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, lorsqu'on lit le journal de Kafka, que c'est bien le journal de Kafka que l'on lit. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans un ensemble très vaste, n'est-ce pas ? Et qui est indissociable de l'ensemble, qui est absolument indissociable de l'ensemble. Comme lorsqu'on parle de la biographie, il faut bien voir qu'elle est elle-même indissociable de l'ensemble de l'œuvre. L'œuvre forme vraiment un ensemble, une galaxie extrêmement complexe, et c'est à partir de là qu'il faut le lire. C'est-à-dire qu'il faut le lire en renvoyant à la réalité du journal. Or, la réalité du journal, c'est la réalité de ce qui a créé la biographie de Kafka, ce qui a créé les misères de Kafka, de ce qui a créé la souffrance et les angoisses de Kafka, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un écrivain dans le monde qui est le nôtre ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça se constitue ? Quel est le jeu, de le réel ? Quel est le jeu, la joca seria, le jeu sérieux de la littérature dans un monde qui est le nôtre ? Quelle est sa fonction et comment le penser ? Et si vous voulez, je pense que la lecture du journal de Kafka, comme la lecture des romans de Kafka, je pense que ça ne se dissocie pas, n'est-ce pas ? On passe constamment de l'un à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux éditeurs du deuxième volume de la Pléiade d'aller chercher dans le journal des éléments qu'ils ont mis dans un contexte de récit et dans un contexte de fable. Des éléments, d'ailleurs, où il est parfois très, très évidemment question de la biographie de Kafka. Il y a des éléments où il est question de cette femme que Kafka devait épouser, qui s'appelle Félice, et qu'on retrouve dans les récits, qu'on met dans les récits. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, ça n'est pas ce geste-là d'extraire du journal des récits pour le mettre à l'intérieur des récits. Il faut au contraire mettre les récits dans le journal, n'est-ce pas ? C'est-à-dire dans la façon qu'a eu Kafka d'écrire quelque chose qui a transcendé, qui a complètement transcendé son existence. Si vous voulez, si on lit le journal de Kafka et si on lit les récits de Kafka, on va se trouver constamment confronté à des constants illogisme de situation, n'est-ce pas ? Que ce soit dans les romans ou que ce soit dans les nouvelles, les situations relèvent très très souvent de caractères tout à fait apparemment illogiques, n'est-ce pas ? Des illogismes. Ça, les rapports entre les personnages, ça cloche, ça ne marche pas. Et lorsque ça marche sur des effets apparemment aberrants, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que cette aberration-là, on la retrouve dans le journal, on la retrouve dans la vie de Kafka et on la retrouve constamment dans le journal. Je dirais que la seule chose qui est logique dans l'œuvre de Kafka, la seule chose qui relève de la logique de Kafka, c'est la mort, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'une chose, aussi bien dans les récits que dans le journal, la seule logique réelle et constante que font apparaître d'ailleurs ces dissonances de récits et ces dissonances de caractère, ces dissonances de dialogue, c'est lorsqu'il y a cette dissonance, ce qui apparaît de l'ordre de la logique réelle et de l'ordre de l'imposition réelle, c'est la mort. C'est la mort qui vient faire trou dans notre logique quotidienne, qui vient faire fragment, qui vient faire journal, qui vient faire même appréciation de l'existence. N'est-ce pas ? La mort vient faire trou. Et forcément, quelque part, cela relève si peu de notre logique que cela semble relever d'une folie. Si vous prenez une nouvelle comme Le Verdict, par exemple, eh bien, il est bien évident que la fin de la nouvelle, c'est-à-dire le moment où le père condamne le fils et lui dit « va te noyer », et où le fils va se noyer, vous avez un glissement logique dans le récit qui précipite l'événement, mais qui le précipite là où l'événement trouve sa réalité, c'est-à-dire dans la mort elle-même, la présence constante de la mort. Et la dernière phrase du verdict, de ce point de vue, est tout à fait superbe, n'est-ce pas ? À ce moment, au moment où le personnage se jette dans l'eau, à ce moment, il y avait sur le pont une circulation littéralement folle. Eh bien, je dirais que c'est à travers cela qu'il faut lire Kafka. Kafka est quelqu'un qui se déplace dans une circulation littéralement folle et qui va aboutir à une folie meurtrière, d'ailleurs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire au fascisme et au meurtre de ses sœurs. Il faut lire le journal sur ce fond-là, c'est-à-dire que le journal est de l'ordre du placement d'une écriture et du placement de la littérature et d'une vision superbe et transcendante de la littérature à l'intérieur d'une circulation, de la circulation de la foule.
Il arrivait au jeûneur, surtout dans les derniers temps de son jeûne réglementaire, de répondre par un accès de rage et de se mettre, au grand effroi de tout le public, à secouer comme une bête les barreaux de sa grille. Dans ces cas-là, l'impresario avait un châtiment tout prêt et n'hésitait que rarement à l'employer. Il excusait le jeûneur devant toute l'assistance. Il concédait que l'irritabilité provoquée par le jeûne, irritabilité bien facile à comprendre pour des gens comme les spectateurs qui avaient l'estomac garni, pouvait seul excuser l'attitude du champion. Il s'arrangeait ensuite pour parler de l'affirmation de l'artiste qui se déclarait capable de jeûnes beaucoup plus longs et la rapportait aux mêmes causes. Il louait la haute ambition, la bonne volonté, la grande abnégation que contenait cette affirmation, mais il cherchait ensuite à la réfuter, trop facilement, en montrant des photographies qu'il faisait acheter en même temps par le public, sur lesquelles on voyait le champion étendu sur un lit, le 40e jour et presque mort d'inanition. Ce déguisement de la vérité, que l'artiste connaissait bien, mais qui réussissait toujours à le déprimer une fois de plus, dépassait vraiment la mesure. On présentait comme un effet du jeûne ce qui n'était que la conséquence de son interruption prématurée. Comment lutter contre cette incompréhension, contre cet océan d'incompréhension ?
Dans la correspondance avec certaines femmes, je pense à Milena, Otla, Felice, est-ce que Kafka veut rester Kafka ou bien est-ce que Kafka veut devenir femme ?
Le danger constant, c'est la tentation de fixer Kafka quelque part, hors de la littérature, n'est-ce pas ? Or, précisément, tout le débat, tout le combat, c'est précisément de se réaliser en littérature et de donner à la littérature une place que, eh bien, mon Dieu, même aujourd'hui, la société et nous-mêmes avons des difficultés à lui reconnaître, c'est-à-dire une place de vérité transcendante. Alors, si vous voulez, les aventures et les mésaventures biographiques, eh bien, elles sont liées à cet effort considérable que fait Kafka pour réaliser ce qui n'est pas réalisable. C'est-à-dire, si vous voulez, pour réaliser ce qu'il dit quand même dans son journal assez tôt, à savoir que la littérature devienne quelque chose de l'ordre d'une cabale, n'est-ce pas ? De l'ordre d'un nouvel ésotérisme, de l'ordre d'une nouvelle sorte de, si je puis dire, d'une nouvelle sorte de comptabilité. Kafka est quelqu'un qui ne cesse de compter, qui ne cesse d'apprécier et de compter ce qui, de son monde, peut faire vérité. Et bien évidemment, si vous vous engagez dans ce type de comptabilité, et c'est pas très différent aujourd'hui, hein, eh bien, vous allez rencontrer des tas de faux calculs, si je puis dire, vous-même. Eh bien, les faux calculs, les rapports de Kafka avec les femmes qu'il a aimées et avec les femmes qu'il a rencontrées, sont de l'ordre de ce faux calcul.
Il avait peut-être des causes profondes, mais qu'il se serait inquiété de les découvrir. Un beau jour, le jeûneur, gâté par les applaudissements de la foule, se vit délaissé du public, avide de folles distractions, qui envahissaient maintenant d'autres salles de spectacle. L'impresario fit encore une tournée forcenée à travers la moitié de l'Europe pour voir s'il ne retrouverait pas, ici ou là, l'ancien intérêt du public.
Mais je ne peux pas dire, je ne crois pas qu'on puisse dire que Kafka soit présent dans ce type d'affaires sexuelles ou sentimental, autrement que comme il est présent dans ses récits, c'est-à-dire autrement que comme un hiatus. Il est à tout moment, dans ses affaires sentimentales, de l'ordre du hiatus. N'est-ce pas ? Ça cloche, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Il va noter dans son journal qu'au fond, Dieu condamne la famille. N'est-ce pas ? Alors que, par ailleurs, l'admiration qu'il porte à son père, c'est d'avoir réussi à fonder une famille, alors que lui-même va être sans cesse préoccupé de ce rapport à la famille, alors qu'il va écrire tout à fait fasciné par des paternités de 11 enfants. Il note par ailleurs que Dieu condamne la famille. Et il est dans cette division. Mais c'est de cette division que se constitue son œuvre, comme elle se constitue de ce qu'il assume lui-même, si vous voulez, dans la culture occidentale, la division entre le judaïsme et le christianisme et l'arrivée dans cette culture, et ça c'est la chose à laquelle je tiens le plus, l'arrivée dans cette culture de cet événement considérable qu'est le judaïsme. Et événement si considérable que, comme vous le savez, ça va produire les camps de concentration, l'Allemagne nazie, mais que ça va produire aussi, après-guerre, un événement que nous n'avons toujours pas fini de penser et qui est la constitution de l'État d'Israël. C'est-à-dire, des milliers d'années après, n'est-ce pas, le retour d'un État d'Israël. Ce qui est quand même, dans la traversée de l'Occident, une question à la chronologie tout à fait considérable.
La même aversion s'était développée partout pour le spectacle de la fin. Naturellement, ce phénomène n'avait pu, en réalité, intervenir si brusquement, et l'on se rappelait maintenant, après coup, bien des symptômes précurseurs que, dans l'ivresse du succès, on n'avait pas assez remarqué à leur époque.
Bien, je crois qu'il faut penser le tout à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que le danger, vous souleviez la question du journal, eh bien, si vous voulez, je crois que le danger, c'est à la fois d'ignorer chez Kafka le fragment et de le réduire au fragment. Les femmes qu'il rencontre, ce sont des fragments. Les nouvelles, les romans, ce sont des fragments. Si on se fixe sur le fragment, eh bien, on va avoir de Kafka une vision, même pas fragmentaire, mais tout à fait fausse. C'est-à-dire, on va, au fond, sélectionner ce que l'on souhaite reconnaître dans cette œuvre en excluant le reste. Et à ce moment-là, on peut faire de la psychologie, si vous voulez, on peut même faire de la psychanalyse, on peut produire de la banalité psychanalytique sur l'œuvre de Kafka, qui n'échappe pas pour autant d'ailleurs, aux problèmes que tout homme rencontre dans cet ordre. Mais le problème de Kafka, c'est précisément dans l'ordre du fragment de constituer un ensemble qui transcende le fragment en tant que tel et qui, en tant que transcendant le fragment, vient faire loi ou vient faire commentaire sur la loi et, en tant que tel, s'inscrit comme littérature et comme pensée du fragment.
J'ai vaguement entendu ce qu'il disait là.
Marcelin Plenet. Vous n'êtes pas d'accord, Christian Boltanski?
Non, mais c'est un point d'état. C'est-à-dire qu'il me semble, déjà pour Kafka, beaucoup plus pour quelqu'un comme moi, mais déjà pour Kafka, c'était déjà un peu le dernier des Mohicans. Enfin, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi aujourd'hui, par rapport au judaïsme, c'est vraiment. Moi, je me compare toujours à dans les westerns, ces Indiens qui vont avec les soldats bleus et qui sont devenus alcooliques. Et qui sont toujours une plume sur la tête, mais qui sont habillés en soldats et qui guident vaguement les soldats bleus vers les refuges indiens comme ça. Et s'il y a eu un monde juif d'Europe centrale qui a existé, il est totalement mort. Et contrairement à ce que dit Plenet, il est mort par le nazisme, mais également, à mon avis, par l'État d'Israël. Et en tout cas, c'est un univers qui n'existe plus. Donc, il y a comme ça des sortes de vagues choses qui nous restent. Et il y avait un peu... Kafka avait seulement plus de choses, était beaucoup plus proche de ce monde. Et malgré tout, avec ce sentiment que ce monde est mort. Donc, on a simplement quelques... On en a entendu parler, on a quelques trucs. Mais de toute façon, c'est plus nous. Je veux dire, ce n'est plus nous et ce n'est plus possible. Enfin. Et le... Il y a cette chose étrange du judaïsme, que c'est en même temps, en tout cas, par exemple, pour moi qui suis en même temps, ça c'est une autre histoire très peu juive et tout ça, c'est certainement la chose la plus importante, par exemple, dans mon activité de peintre. Bon, ça, j'en suis sûr, et je pense également dans ma vie. Bon. Et qu'en même temps, c'est une chose qui est totalement absente, c'est-à-dire que je ne suis jamais entré dans une synagogue de ma vie, que je ne connais absolument rien à la religion juive, que je ne suis pratiquement pas juif. Mais en même temps, je sais pas, bon, c'est certainement très très important et c'est très important dans mon activité. Et avec cette notion de dernier des Mohicans, comme ça, d'appartenir vaguement par histoire racontée à un monde qui n'existe plus, et tant mieux qu'il n'existe plus d'ailleurs, enfin, c'est comme ça, tant mieux, c'est. Et je cherche pas du tout à le faire revivre en tout cas. Mais c'est fini.
Je crois que nous sommes dans un monde plus kafkaïen chaque année. Et si le film, par hasard, est devenu plus intéressant, c'est à cause de Kafka et le monde.
Une chose que j'aimais bien dans le film de Wells, c'était d'avoir pris Anthony Perkins, qui était tout de même vaguement l'image d'un beau jeune homme américain sportif, et pas d'avoir pris un petit homme courbé.
C'est-à-dire que je pense que chez Kafka, il y a, il disait ça vaguement d'ailleurs, Marcel Plenay, mais il y a vraiment deux personnages. Enfin, il y a en même temps tout de même une sorte de bourgeoisie bien, monsieur bien, et puis quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Mais je trouvais en tout cas intéressant d'avoir une sorte de vision du héros du procès qui soit un monsieur bien, bourgeois, propre. Pour dire encore des banalités, mais qui sont vraiment. Je ne suis pas très brillant aujourd'hui, hein. Mais, justement, ce qui est le plus, pour reparler de la judaïcité de Kafka, ce qui est le plus énervant, c'est ce côté image de Kafka, image du juif, comme ça. Ce qui n'est pas, enfin, même s'il l'est, de toute façon, c'est énervant, c'est cette sorte de cliché qu'il y a par-dessus, comme ça, ce côté.
Et qu'est-ce que vous pensez de la femme chez Kafka et la femme chez Plenay?
j'ai vraiment aucune idée. Vraiment.
Les femmes de Kafka? Je pense que ça vient pas tellement des femmes, que ça vient du père, de la famille. Non, je pense que toute femme pour Kafka interrompt la création.
Anne-Marie Albiac.
Il a ça, semble-t-il, bien. Il a peur de perdre son malaise. Ça aurait pu être n'importe quel genre de femme, ça aurait été pareil, à mon avis. Je crois qu'il est très très attaché à ses insomnies, à ses rêves, à ses cauchemars, à son corps qui lui convient pas, à ses veilles de nocturnes, à envisager de quitter son boulot. Il en parle, il ne peut pas le quitter s'il est marié, mais en fait, il n'a pas du tout envie de le quitter. Tout ça sont des prétextes qu'il a vis-à-vis des femmes. Je pense qu'il n'est pas misogyne, je pense qu'en fait il aime les femmes, mais sa grande terreur, c'est qu'elle prendrait la place d'un mot, d'une phrase. je crois qu'il n'est pas prêt à gaspiller une seconde avec une femme qu'il adore, c'est parce qu'il a l'impression que cette seconde, ça l'empêche de se préparer à cet état d'écriture qu'il recherche tout le temps.
Lettre à Félice. Fin décembre 1916, début janvier 1917. Chérie, voilà donc mon histoire de logement. Un thème puissant, effrayant. Je ne pourrais pas en venir à bout. Trop grand pour moi. Je ne pourrais en décrire qu'un millième. Et de ce millième, je n'aurais en écrivant qu'un millième présent à l'esprit. Et de ce millième, je ne pourrais te faire comprendre qu'un millième, et ainsi de suite. Peu importe, il le faut, j'ai besoin de tes conseils. Donc, lis attentivement et conseille-moi bien. Tu connais le mal dont je souffre depuis 2 ans, un petit mal comparé aux souffrances du monde pendant le même temps, mais pour moi bien suffisant. Une chambre d'angle confortable, agréable, 2 fenêtres, 1 porte donnant sur un balcon, vue sur une foule de toits et d'églises. Des gens supportables, puisqu'avec un peu d'entraînement, je ne suis pas du tout tenu de les voir. Une rue bruyante, de lourds camions dès l'aube, mais j'y suis déjà presque habitué. La chambre n'en est pas moins inhabitable pour moi. Certes, elle est au bout d'un très long couloir et extérieurement assez isolée, mais c'est un immeuble en béton. J'entends, ou plutôt j'entendais jusqu'à près 10 heures du soir, les soupirs des voisins, les conversations des gens du dessous, ça et là un fracas provenant de la cuisine. En outre, au-dessus du plafond mince se trouve le grenier, et je ne peux pas faire le compte des fins d'après-midi où, alors que je voulais justement travailler un peu, une bonne occupée en toute innocence à pendre du linge, me martelait littéralement le crâne à coups de talon. De temps à autre, il y avait aussi un piano. Et l'été, venant du demi-cercle formé par les autres maisons rapprochées, des chants, un violon, un gramophone. Il fallait donc attendre 11 heures du soir pour avoir un silence à peu près total. Donc, impossibilité d'obtenir la paix, dépaysement complet, foyer de tous les délires, faiblesse sans cesse plus grande et sentiment de n'avoir plus d'issue. Que de choses il y aurait à dire là-dessus, mais passons. Cet été, je suis allé un jour chercher un logement avec Otla. Je ne croyais plus à la possibilité d'un silence réel. Néanmoins, je suis allé chercher. Nous avons vu une ou deux choses dans le quartier de la Kleinseit. Et moi, je pensais continuellement, si seulement nous pouvions trouver au fond du grenier de quelques vieux palais un trou silencieux où je puisse enfin m'allonger en paix. Rien. Nous n'avons rien trouvé de convenable à proprement parler. Par manière de plaisanterie, nous avons demandé s'il n'y avait rien dans la petite ruelle des alchimistes. Si, il y aurait en novembre une maisonnette à louer. Otla, qui cherche également le calme, mais à sa façon, s'est entiché de l'idée de louer la maison. Moi, dans ma faiblesse innée, je la lui ai déconseillée. Je ne pensais guère que je pourrais m'y loger aussi. Elle était si petite, si sale, si inhabitable avec tous les défauts possibles. Mais Otla s'est entêtée. Et une fois que la grande famille qui l'occupait eut débarrassé les lieux, elle l'a fait repeindre, a acheté quelques meubles en rotin. Je ne connais pas de siège plus commode que cela. A tenu tout cela secret et continue de le cacher au reste de la famille. À peu près vers cette époque, je suis revenu de Munich avec un courage tout neuf. Je me suis rendu dans une agence de location où la première chose ou presque qu'on m'a indiqué était un appartement à louer dans l'un des plus beaux palais. Deux chambres, une antichambre dont une moitié avait été aménagée en salle de bain, 600 couronnes par an. C'était comme la réalisation d'un rêve. Je suis allé voir. Pièce haute et belle, rouge et or. On se croirait à Versailles. Quatre fenêtres donnant sur une cour entièrement abîmée dans le silence, une fenêtre sur le jardin. Le jardin. Lorsqu'on entre par le porche du château, on en croit à peine ses yeux. À travers le grand demi-cercle que forme le deuxième portail flanqué de cariatides, on voit, partant d'escaliers de pierre joliment distribués qui se ramifient en lignes brisées, une vaste pente suivre le grand jardin pour monter jusqu'à une gloriette dans un mouvement large et lent. Or, ce logement avait un petit défaut. Le précédent locataire, un jeune homme séparé de sa femme, ne s'y tenait que depuis quelques mois avec son domestique. Puis, il avait été déplacé à l'improviste. Il est fonctionnaire. Il devait quitter Prague. Mais dans ce bref laps de temps, il avait déjà investi tant d'argent dans l'appartement qu'il ne voulait pas l'abandonner sans plus. C'est pourquoi il l'avait gardé. Il cherchait quelqu'un qui pût au moins en partie lui rembourser les frais. Poste de l'électricité, installation de la salle de bain, de placard, du téléphone, grand tapis cloué. Je n'étais pas ce quelqu'un-là. Il en voulait, c'était assez peu certainement. 650 couronnes. C'était trop pour moi. Et puis je trouvais ces hautes pièces froides, trop somptueuses. Car finalement je n'avais pas de meubles. Une considération à quoi d'autres plus mesquines venaient encore s'ajouter. Or il y avait dans le même château loué directement par le gérant, un autre appartement situé au deuxième étage. Des pièces un peu plus basses, vues sur la rue, un ratchin juste sous les fenêtres. Plus accueillant, plus humain, aménagé simplement. Il avait été habité par une comtesse de passage ici qui était probablement de goût plus modeste. Le mobilier, virginal et composé de meubles anciens, était encore là. Mais il n'était pas sûr que le logement fût disponible. Sur le moment, j'en ai été désespéré. C'est dans cet état que je suis allé voir la maison d'Otla qui venait d'être terminée. Elle avait les nombreux défauts qui accompagnent tout début. Je n'ai pas le temps de te raconter les péripéties. Aujourd'hui, elle me convient parfaitement, en tout. Le joli chemin qui y monte, le silence de l'endroit. Je ne suis séparé d'un de mes voisins que par un mur très mince. mais ce voisin est assez silencieux. Je monte mon dîner et je reste là-haut le plus souvent jusqu'à minuit. Ensuite, l'avantage du chemin à faire pour rentrer. Je suis obligé de me décider à interrompre mon travail, et puis j'ai ce trajet qui me rafraîchit la tête. Et la vie qu'on mène là. Il y a quelque chose de particulier à avoir sa maison, à pouvoir fermer sur le monde non pas la porte de sa chambre, non pas celle de son appartement, mais tout de suite celle de sa maison. De passer directement de la porte à la neige de la rue silencieuse. Le tout pour 20 couronnes par mois, pourvu du nécessaire par ma sœur, servi dans les limites de l'indispensable par la petite vendeuse de fleurs, l'élève d'Otla, tout un ordre et agréable. Et juste à ce moment, le problème est tranché. Maintenant, finalement, l'appartement est à ma disposition. Le gérant à qui j'ai rendu service est très bien disposé à mon égard. J'aurai ce logement sur rue pour 600 couronnes, mais sans les meubles que j'escomptais. Il se compose de deux pièces et d'une antichambre. Il y a l'électricité, mais pas de salle de bain, pas de baignoire. Du reste, je n'en ai pas besoin. En bref, maintenant, les avantages de mon gîte actuel par rapport au château. 1. L'avantage du statu quo. 2. Puisque je suis satisfait, pourquoi me créer éventuellement des regrets? 3. Perte de ma propre maison. 4. Perte de la marche nocturne qui améliore mon sommeil. 5. Il me faudrait emprunter des meubles à ma sœur qui habite actuellement chez nous. En fait, je n'aurai qu'un lit pour l'une des chambres qui est gigantesque. Frais de déménagement. 6. En ce moment, j'ai 10 minutes de moins pour aller au bureau. L'appartement du château est, je crois, exposé à l'ouest. Ma chambre a du soleil dès le matin. À côté de cela, les avantages du château. 1. Avantage du changement en général et de celui-ci en particulier. 2. Avantage d'un appartement silencieux pour moi seul. 3. Dans mon lieu de travail actuel, je ne suis pas tout à fait indépendant. À vrai dire, j'en prie votre là. Si gentille et si dévouée soit-elle pour moi, il viendra bien un jour de mauvaise humeur où elle me le fera sentir à son corps défendant. Cela dit, elle aura sûrement de la peine si je ne viens plus dans la petite maison. Au fond, il lui suffit d'y être de temps en temps à midi et le dimanche, jusqu'à 6 heures du soir. 4. Il est vrai que je n'aurai plus le chemin du retour. Sortir la nuit sera également difficile puisqu'on ne peut pas ouvrir la porte de l'extérieur, mais en compensation, je pourrais fort bien aller me promener un moment la nuit dans la partie du parc réservée d'ordinaire au maître du lieu. 5. Après la guerre, je veux tout de même essayer d'obtenir une année de congé pour commencer. Ce ne sera sans doute pas possible immédiatement, si tant est que ça le soit jamais. Eh bien, nous aurions alors tous les deux le logement le plus merveilleux que je puisse imaginer à Prague. Prêt à t'accueillir, pour un temps relativement court toutefois, pendant lequel tu devrais renoncer à avoir ta cuisine à toi et même une salle de bain. Malgré tout, ce serait dans mes goûts et tu pourrais te reposer à fond 2 ou 3 mois. Et ce parc indescriptible, par exemple au printemps, en été, propriétaires absents, ou en automne. Mais si je ne m'assure pas de l'appartement tout de suite, soit que j'éménage, soit, prodigalité insensée au-delà de tout ce que peut imaginer un esprit de fonctionnaire, que je me contente de le payer, 150 couronnes tous les 3 mois. Je ne crois pas que je l'aurai. En fait, je l'ai déjà pris. Mais à coup sûr, le gérant me déliera volontiers de mon engagement. D'autant que, cela se comprend, l'affaire n'a pas pour lui la plus infime partie de l'importance qu'elle a pour moi. Je t'ai dit bien peu de choses. Mais maintenant, à toi de juger, et vite.
C'était le 8e de 9 épisodes d'une journée Franz Kafka par Jean Dave, Isabelle Huel et Jacques Taroni, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, avec Ivo Fleischmann, Sol Freilander, Christian Boltanski, Marcelin Plenet, Bernard Noël et Anne-Marie Albiac. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture, à la page des nuits, et sur l'application Radio France.